Bonjour à toutes et à tous. Voilà, que Dieu me donne encore la voix ce matin. Ça paraît anodin ce que je dis, mais pour moi, ça n'est plus anodin. Depuis que j'ai vécu ça, je réalise que si Dieu ne me donne pas la voix, c'est foutu. Et que je dépends de sa grâce. Amen. Est-ce que vous vous souvenez ce qui était là, de quoi nous avons parlé la semaine dernière ? Eh oui, le temps. Que pour nous, l'important, à travers le temps, c'était que nous vivions la puissance de l'éternité au milieu de notre présent. Et que finalement, le temps est une puissance, un pouvoir. Quand on dit qu'on n'a pas le temps, ça veut dire que le temps nous possède. Nous, on ne l'a pas, mais lui, il nous a. Et l'important, c'est que la puissance de l'éternité agisse à travers notre présent. Alors le thème de ce matin, tu peux envoyer, puisque je faisais une... Je savais, je revenais. Donc, je vais continuer sur le temps. J'ai pas fini. Mais à travers ce temps, on va voir à travers... c'est pas l'église, c'était une réunion, quoique c'était des réunions de maison. Et on va voir à travers cela... les cinq temps d'Eutychus, donc d'un jeune homme, et en même temps que ces cinq temps, les cinq temps de l'Église. Et on va se rendre compte qu'il a vécu sur le plan personnel des choses que l'Église a vécues. Mais même si on va voir à travers ces cinq temps, les cinq temps, avec que ce soit lui ou que ce soit l'Église, ils ont vécu les cinq mêmes temps, mais d'une manière différente. D'une manière différente. Et on va voir ce matin l'importance d'être en accord à travers ces temps-là. Et comme on le voit à travers la photo, et c'est le texte de Acte 20, il y a l'Église où il nous est dit, Acte 2, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que tous ceux qui croyaient, est-ce que vous êtes des croyants ? Vous êtes sûr ? Pas... Mais voyons donc, oui, vous n'avez pas l'air convaincu. Tous ceux qui croyaient, et voilà pourquoi on est là. On n'est pas venu passer un temps. On est venu dans la présence de Jésus. Tous ceux qui croyaient étaient là dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Par contre, on se rend compte à travers le texte que s'il y avait aussi à ce moment-là un moment de réunion, la photo là en haut, c'est exactement ça. Pourquoi ? Parce que dans cette réunion, dans Acte 20, il y avait comme nous là la réunion ce matin, mais lui, Eutychus, il était un peu à part. Et l'important pour nous, c'est qu'on soit tous ensemble. Parce que une chose est de se mettre à part, qui n'est pas bonne. Mais une autre chose est d'être mise à part. Ça, c'est une autre affaire. Et la Bible nous dit que Jésus nous a mis à part. Et ce matin, finalement, les uns les autres, si je regarde l'Église, nous avons pris un temps, nous sommes dans un temps à part. Nous sommes dans un temps à part, et c'est une bonne chose. Mais par rapport à Eutychus qui, lui, est sur le bord de la fenêtre, il s'est mis à part des autres, tout en étant dans l'Église. Et donc, on se rend compte, l'important pour nous, et le danger à travers ce texte, on le voit, que d'être là sans y être. On peut être là, mais on n'est pas là. On est là de corps, mais on n'est pas là d'esprit. On est là de corps, mais on est à part. On n'est pas vraiment dans l'unité. On n'est pas vraiment dans la communion. On n'est pas vraiment... On est là et peut-être qu'on en entend. Mais est-ce que l'on écoute pour mettre en pratique la parole ? C'est ça le but. Et gloire à Dieu que nous sommes tous là ce matin. Mais l'important, c'est pas qu'on soit simplement là, mais qu'on soit dans le temps de Dieu et qu'on est dans ce temps de mise à part pour Dieu. Tous. C'est comme si Dieu nous a mis à part, pour un temps à part, avec lui et pour lui. Alors je lis le texte, c'est dans Acte 20, si vous avez une Bible. C'est une bonne chose d'avoir une Bible. Le dimanche, nous étions réunis, parce que le texte le dit le dimanche, quand, comme ce matin. Le dimanche, nous étions réunis pour rompre le pain. Comme Paul devait partir le lendemain, il se rentretenait avec les assistants et prolongea son discours jusqu'à minuit. Oups, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas aller jusqu'à minuit, moi. Nous étions réunis à l'étage supérieur de la maison, éclairés par de nombreuses lampes. Un jeune homme nommé Eutychus était assis sur le rebord de la fenêtre. Et comme Paul prolongeait encore son entretien, il s'endormit profondément. Aïe, aïe, aïe. Soudain, dans son sommeil, il perdit l'équilibre et tomba du troisième étage. Quand on le releva, il était mort. Paul descendit, se pencha sur lui, le prit dans ses bras et lui dit « Ne vous inquiétez pas, il est encore en vie. » Il remonta, rompit le pain, mangea et continua de parler jusqu'au point du jour. Puis il partit. Quant au jeune homme, il fut ramené chez lui indemne, au grand réconfort de tous. On pourrait dire ce matin que c'était un fait divers. Un fait divers qui commence mal, mais un fait divers qui finit bien. Et moi, je dis gloire à Dieu pour tout ce que j'ai entendu de la bouche de mon frère Luc ce matin. Dieu, c'est ça. C'est un Dieu qui change le mal en bien. Et ce qui me bénit à travers la parole de Dieu, c'est que la Bible, c'est pas « il était une fois », c'est pas un conte de fées, c'est une réalité. Dieu change le mal en bien. Et même si dans ta vie, et moi je le vis, et c'est ma vie, si ma vie a commencé par un film d'horreur, aujourd'hui c'est un conte de fées. Plus qu'un conte de fées parce que c'est la réalité. J'ai commencé ma vie par un film d'horreur, mais aujourd'hui je suis dans la réalité de l'amour de mon Père Céleste, dans sa grâce, dans sa bonté, dans sa puissance. Dieu a changé ma vie. Dieu a changé ma vie. Dieu a changé mon existence. Il a changé mes circonstances. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu. Et je ne sais pas si j'aurai l'occasion, j'ai commencé une étude là-dessus, et à travers la parole de Dieu. Et le thème, c'est la culture de l'invisible. Et puis, il y a dans un de ces épisodes, je ne sais pas si ça va être une trilogie ou quoi, mais il y a un thème, ça va être « Ne perdons pas de vue l'invisible ». Mais voyons donc, oui. Comment on peut perdre de vue quelque chose qu'on ne voit pas? Oui, parce qu'il y a la réalité spirituelle. Et la Bible nous montre qu'il y a la réalité spirituelle. Et que ce qui, pour le commun des mortels, on ne voit pas, mais pour nous, nous le voyons à travers la foi. Et la Bible nous dit d'ailleurs de ce que les hommes ne voient pas peut-être, même les perfections invisibles de Dieu se voient comme à l'œil nu. Pour ceux qui ont la foi. Et l'important pour nous, justement, c'est d'aller dans cette réalité de la puissance et de l'autorité de Dieu. La Bible nous dit que Jésus est au-dessus de toute autorité. Et ça nous montre, là on parle de ce texte d'un jeune homme qui s'est endormi et qui est mort, mais qui a été ramené à la vie. Ça, c'est la puissance de Dieu. Pas dans les actes des apôtres seulement, mais aujourd'hui, à travers l'Église. Dieu est le Dieu de la vie. Dieu est le Dieu de la vie. Lorsque je regarde ce texte, je me dis, c'est ça le danger. C'est parce que le fait d'être là sans être là, d'entendre sans écouter, finalement, il est là, mais il n'est pas là, c'est que petit à petit, le danger a été là. Il s'est assoupi, il s'est endormi. C'est pas Dieu qui l'a endormi, hein. Mais il s'est endormi. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, j'ai déjà entendu une réflexion comme quoi, vous et moi, la Bible, certains disent, tu sais, pasteur, la Bible, c'est une question d'interprétation. Ah bon, question d'interprétation. Non, ce n'est pas une question d'interprétation. C'est une question de lire ce que Dieu dit et de croire ce que Dieu dit. Parce que certains, je l'ai entendu de mes oreilles, c'est pour ça que je vous le dis, c'est une histoire vraie. Ils ont dit, mais finalement, que le gars soit tombé, ce n'est pas de sa faute. Ah bon? Ben, il s'est endormi, il était à part. Non, non, pas de sa faute. Si Paul avait prêché moins longtemps, il ne serait pas tombé. Ben, voyons donc, oui. J'ai entendu de mes oreilles. C'était leur interprétation. Alors, je bénis le Seigneur ce matin. Vu la température, les fenêtres ne sont pas ouvertes. Personne n'est assis sur le bord de la fenêtre. Puis j'ai une autre bonne nouvelle. On est au rez-de-chaussée. Comme ça, on ne risque pas de tomber. Alors certains, mais vous savez comme quoi, une question d'interprétation. Si c'est de la faute de Paul, s'il avait prêché moins longtemps, ça ne serait pas arrivé. Parce qu'il a prolongé son discours. J'avoue qu'il y a des choses dans nos vies, on n'a pas envie que ça se prolonge. Est-ce que vous avez envie, vous, que les problèmes se prolongent? Vous avez envie, vous, que la maladie se prolonge? Par contre, je dis une chose pour vous et moi ce matin. Je dis gloire à Dieu pour sa grâce qui se prolonge. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Et on en est là ce matin. Et je dis gloire à Dieu, même si aujourd'hui, peut-être, tu es dans un temps compliqué, un temps de maladie. Mais si tu es là encore et si on prie pour des cas, c'est parce que la vie se prolonge, malgré la maladie. Et si la vie se prolonge, c'est parce qu'on peut encore prier, on peut encore espérer, on peut encore demander la grâce de Dieu. Alléluia. Alors oui, peut-être il y a des choses qui se prolongent et on n'a pas envie que ça se prolonge, mais je dis gloire à Dieu parce que la bonté de Dieu se prolonge, sa grâce se prolonge, sa puissance se prolonge, la prière se prolonge. La communion fraternelle se prolonge. Et c'est pour cela que on a le droit d'espérer encore en Dieu. Dieu est mon espérance. Pas la religion. Mon Dieu, en lui est mon espérance. Alléluia! Et la Bible dit que la gloire, c'est l'espérance qui est en Jésus-Christ. Alors je dis gloire à Dieu pour l'espérance qui est en Jésus-Christ. Tu peux cliquer ce matin? Je réalise à travers ce texte, à travers Eutychus, vas-y, tu peux y aller. Que, à travers ces cinq temps, il y a ce temps de la résistance. Et on va le voir que finalement, la résistance, c'est une mauvaise chose d'un côté, mais c'est une bonne chose de l'autre. Tu peux cliquer encore? Et ça me faisait penser à ce texte de Jean, Jean-Baptiste. Lorsque Jésus est venu à lui, il est venu pour se faire baptiser. Alors on comprend sa réticence lorsque Jésus lui a dit, tu sais, tu peux me baptiser. Et Jean-Baptiste dit, voyons donc, toi. Et c'est plutôt moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et la Bible nous dit que Jean s'opposait à Jésus. Mais la Bible nous dit qu'à un moment donné, Jésus lui parla et Jean ne lui résista plus. Et j'aimerais vous dire ce matin que finalement, Eutychus, il était sur le bord. Et lorsque l'on est en équilibre, je ne sais pas si j'avais des amis en France, ils avaient un, je sais pas comment on appelle ça là, vous savez, lui fait beaucoup de sport, et il avait un fil là, exactement ça, bon, c'était pas au-dessus d'une, un funambule, voilà. Et donc j'ai essayé, il m'a dit, tiens, essaye, et j'ai essayé ça, ouais, c'était, et j'ai réalisé que oui, pour être comme ça, je résistais, pour pas tomber d'un côté, ou tomber d'un autre. La Bible nous dit que Eutychus était sur le bord. Et être sur le bord, c'est résister. Parce que la Bible nous montre que Dieu ne veut pas qu'on soit sur le bord. Mais il veut qu'on soit pleinement en lui. Il ne veut pas qu'on soit sur le bord du salut. Il veut qu'on soit assis dans son salut. Dieu ne veut pas qu'on soit au bord de la communion, au bord de la prière. Non, non. Dieu veut que l'on soit pleinement en lui. Alléluia! Et à travers la vie, je réalise que oui, la vie, tous les jours, nous sommes en équilibre. Tous les jours. Parce qu'à travers vos vies, vos circonstances, les miennes, je réalise que d'un côté, l'incrédulité est là et de l'autre côté, la foi. Et à travers ce que je vis, mes épreuves, mes problèmes, mes difficultés, ou d'un côté, je vais entendre peut-être même des gens me décourager et me dire, c'est pas la peine, n'espère pas, ça sert à rien de prier, regarde, ça change pas. Par contre, je vais peut-être entendre d'autres personnes ou la parole de Dieu, encore comme ce matin, me dire, espère en Dieu, crois en Dieu, parce que Dieu est le Dieu du changement. Mais je suis en équilibre. De quel côté je vais pencher? De l'incrédulité ou du côté de la foi? Du côté, il n'y a plus rien à faire, ou d'un côté avec Dieu, il y a encore quelque chose à faire. Parce qu'avec Dieu, jamais rien n'est fini. Le temps de la résistance. J'ai connu dans ma vie un temps de résistance. Pourtant, moi aussi, je venais à l'âge de 14 ans, j'ai été à l'église. Et comme mon papa adoptif était pasteur, bah, il fallait que j'aille à l'église. Mais je peux vous dire aujourd'hui que la première chose que je faisais en rentrant dans l'église, il y avait une pendule qui était là, on était assis, la pendule était là à gauche, et la première chose que je regardais, c'était la pendule. La première chose que j'avais envie de faire en rentrant, c'était de sortir. J'étais là, mais je faisais de la résistance à Jésus. Et c'est une mauvaise résistance que de résister à Jésus. Vous savez, dans nos vies, il y a des choses, on a besoin de prendre position, de prendre des décisions, faire des choix et des bons choix. Et j'aimerais vous dire ce matin, vous n'allez pas avoir peur. Suivre Jésus, c'est un bon choix. Prendre la décision de suivre Jésus, c'est un bon choix. Mais parfois, à travers nos vies, nos circonstances, on est comme sur une ligne. On est là et on n'est pas là et il y a des choses que l'on devrait faire mais on les fait pas. Dieu nous dit, regarde, faut que tu prennes position, mais on prend pas toujours, on est toujours sur une ligne. Et je vous ferai remarquer à travers le texte, ils étaient au troisième étage. La Bible nous dit que Eutychus est tombé. Pas de chance, il est tombé du mauvais côté. Bah oui ou non? Il y a des gens qui disent, ah, je suis tombé dans l'église. Non, vous tomberez jamais dans l'église. Non, mais ça marche pas. Il n'est pas tombé dans l'église. Il est tombé à l'extérieur. Il n'est pas tombé du bon côté. Et à travers la ligne, on est comme dans une résistance. Il y a des choix à faire, j'ai des décisions à prendre. Et je ne les prends pas. Si je ne les prends pas et que je sais que je dois les prendre, je résiste. Mais j'aimerais vraiment vous rassurer ce matin. Alléluia, je rentre dans ma troisième année de ministère. Ça fait 35 ans que j'ai donné ma vie à Jésus. Alléluia, je suis toujours là, j'aime toujours Jésus. Et ma vie, c'est de servir Jésus. Ah non, mais toi, pasteur, t'es à part, toi, t'es une onction spéciale. Non. J'aimerais vous dire qu'avec pasteur Luc, en tant que pasteur, nous sommes premièrement des sauvés par grâce. Nous ne sommes pas des surhommes. Les chrétiens ne sont pas des superstars. Nous sommes des gens comme les autres. Tout simplement, nous croyons dans la grâce. Et nous avons pris la décision de suivre Jésus. Et c'est ça l'important, de ne pas résister. Et lorsque Dieu me dit qu'il y a des choses à faire, que j'ai des choix à faire, que j'ai des décisions à prendre pour lui, mon ami, ce matin, prends-les les décisions. Ne marche pas sur un fil. Parce que le but du diable, c'est de nous faire tomber du mauvais côté. Et l'important pour moi ce matin, c'est de ne pas résister à l'appel de Dieu, mais c'est de rentrer pleinement dans sa grâce et dans son appel. Maintenant, tu peux cliquer, je réalise que d'un autre côté, si je ne dois pas résister à Jésus, si je ne dois pas résister à des choses qu'il me dit, en même temps, je dis gloire à Dieu pour l'Église. Pourquoi on est là ce matin? Parce qu'on résiste. On résiste, non pas à Jésus, mais on résiste aux puissances de l'enfer. On est ensemble pour résister à l'ennemi de nos âmes. On est là ensemble pour résister à tous ceux qui veulent nous faire désespérer, à tous ceux qui veulent nous plonger dans l'incrédulité. Le but de l'Église, de la communion fraternelle, c'est d'être ensemble pour mieux résister. Plus rien à faire, pasteur, c'est terminé. Non, l'Église est réunie, elle est là pour prier, elle est là pour intercéder, on est là pour ouvrir la Bible et dire, regarde, la Bible dit, rien n'est impossible à Dieu. Ça, c'est faire de la bonne résistance. Vous n'avez pas envie de faire de la bonne résistance? Vous êtes loin de ça, mais nous en Europe, et j'en parlais encore, mon beau-papa a 98 ans, il a connu la guerre, il était en Allemagne. Il y avait ce qu'on appelait en France la résistance. Et ces gens-là ont fait des choses extraordinaires. Parce que même s'ils étaient au milieu de l'ennemi, ils résistaient. Pour leur pays. Et moi, je dis gloire à Dieu ce matin de ce qu'on est là au milieu de l'ennemi, mais on résiste pour le royaume de Dieu, afin que le royaume de Dieu prenne de plus en plus sa place et qu'au nom de Jésus, l'ennemi soit vaincu. C'est ça, résister. Et ça, c'est la bonne résistance. On a raison de résister dans la prière. On a raison de résister dans l'enseignement de la Bible. On a raison de résister à travers la communion fraternelle. On a raison de résister à travers l'Esprit de Dieu dans nos vies. On a raison. La Bible nous parle de ce texte où les apôtres, au début, dans les actes des apôtres, ils ont été arrêtés. Et puis là, suite à un miracle extraordinaire. Et puis la Bible nous dit que les religieux de l'époque les ont attrapés, ils les ont interrogés. Et puis on dit, bon, ok les gars, on va vous relâcher, mais on vous interdit de parler au nom de Jésus de Nazareth. Et l'apôtre Pierre n'a pas dit, d'accord, on arrête. Vous inquiétez pas, on va arrêter. Ils ont fait de la résistance. Et l'apôtre Pierre a dit à ces gens-là, à cette époque-là, il a dit, vous pouvez dire ce que vous voulez, nous, on continuera à parler de Jésus, on continuera à prier Jésus, on continuera à proclamer le nom de Jésus, on continuera à faire de l'évangélisation, alléluia. Ça, c'est de la bonne résistance. Et moi, je dis gloire à Dieu ce matin pour l'église de Sainte-Terre, à travers l'action de la parole de Dieu, à travers l'action Bonne Nouvelle. Ça, c'est résister à l'enfer, c'est résister à l'égoïsme. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Nous résistons à ça. Et disons non, nous sommes des uns et les autres, des instruments les uns pour les autres. L'église est l'instrument pour la ville, alléluia, et pour sa région. Et j'aime tellement ce passage où il dit, ayant été relâchés, ils vont vers les leurs. Pourquoi? Eh bien, pour faire de la bonne résistance. Ils leur apportèrent tous que les principaux sacrificateurs, les anciens leur avaient dit, et l'ayant entendu, ils élevèrent la voix d'un commun accord pour prier Dieu. Ça, c'est la bonne résistance. Faites quelque chose avant que j'explose. À chaque fois que tu viens prier, tu fais de la bonne résistance. Tu empêches l'ennemi d'agir. Tu empêches les ténèbres de s'accomplir. Alléluia. À chaque fois que tu ouvres la parole de Dieu, tu fais de la bonne résistance. J'ose dire ce matin, vous pourriez faire toutes sortes d'affaires, mais vous êtes là, vous avez fait de la résistance. Je dis gloire à Dieu pour la bonne résistance. Ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant. Il cherche quelqu'un à dévorer. Résistez-lui en demeurant ferme dans votre foi. La foi nous permet de résister. Et puis on connaît ce texte de Luc 4 où le diable va essayer de tenter Jésus. Et à chaque fois, Jésus va dire, il est écrit, il est écrit, il est... Et qu'est-ce que nous dit la Bible? Pourquoi? Parce que Jésus a résisté. Et ça va nous dire que c'est un exemple extraordinaire. J'ose te dire ce matin, même lorsque tu es tenté, même lorsque c'est compliqué, même lorsque tu es attaqué par ta foi, par la parole de Dieu, tu résistes. Et c'est pas toi qui t'enfuis. C'est l'ennemi qui est obligé de quitter le territoire. Parce que tu as résisté par la parole. Tu as résisté par la prière. Tu as résisté avec tes frères et avec tes sœurs. Tu peux passer? Le temps où il fut entraîné. Oups. Parce que c'est ce que nous dit la Bible. Alors qu'il est assis sur le bord de la fenêtre, il prolonge son entretien, l'apôtre Paul. Et lui, Eutychus, même s'il est là, à l'intérieur, il s'endormit profondément. Soudain, dans son sommeil, il perdit l'équilibre. Et il tomba du troisième étage. Ça veut dire qu'à un moment donné, il ne pouvait plus lutter. Il est entraîné. Arrivé au deuxième étage, il n'a pas dit au nom de Jésus, hop, je remonte sur le bord. Il est entraîné. Et je me dis, mais finalement, tu peux cliquer, il y a encore le même temps. C'est être entraîné par le péché ou être entraîné par l'esprit. Entraîné par la parole de Dieu, entraîné par la prière, entraîné par la communion. Vous n'avez pas envie de vivre ça? Et plus vous serez entraîné dans la prière, plus vous serez entraîné par la parole, par l'Esprit de Dieu, par la communion fraternelle, par servir Dieu à travers l'Église, moins vous serez entraîné à faire des niaiseries. Je vous le fais en bon québécois. Hein. C'est fini les niaiseries. Mais c'est ça. C'est ça. Je vais vous lire un autre texte encore, c'est un petit peu plus loin, c'est toujours dans les actes. Pourquoi ? Parce que les actes des apôtres, c'est les actes de Jésus à travers les apôtres. Mais ça nous parle de la vie, et ça nous parle encore de l'apôtre Paul. Et finalement, je me dis à travers les textes, ben finalement, partout où il passe, lui, il y a des problèmes. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas avec ce bonhomme-là. Non, c'est pas vrai. Non, il y a des problèmes. Oui, mais lorsque tu as Jésus, tu es comme tout le monde, tu as des problèmes. Mais Dieu est le Dieu des solutions. Dieu est le Dieu de la réponse. Et puis on se rend compte à travers l'apôtre Paul, parce que c'est pas de l'apôtre Paul, si le gars Eutychus, au lieu d'être autour de la table comme tout le monde, il s'est mis à part. Et là, à travers ce acte 27, où la Bible nous dit qu'un temps assez long s'est écoulé, la navigation devenait dangereuse, l'époque même du jeûne était passée, c'est pourquoi Paul avertit les autres en disant « Oh homme, attention les amis, je vois que la navigation ne va pas se faire sans péril et sans beaucoup de problèmes ». Il dit non seulement pour la cargaison, pour le navire, mais aussi encore pour nos personnes. Mais le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Bah oui, voyons donc, qu'est-ce qu'on en a à faire des paroles d'un pasteur ? T'es rentre chez toi. T'es qui, toi, pour nous dire ce qu'on a à faire, apôtre Paul ? T'as fait des études dans le domaine maritime, t'as appris le métier de la pêche ? T'as appris à conduire un bateau. C'est pas vrai. Parfois, c'est ce qu'on nous dit. Mais je réalise, et lisez la Bible, vous verrez que même vous, les uns les autres, Dieu peut vous révéler des choses que même au plus puissant, Dieu ne révèle pas. Parce que vous êtes en connexion avec Dieu. Le Dieu créateur du ciel et de la terre, alléluia! Et l'apôtre Paul dit, écoutez les amis, vous pensez quitter le port, mais vaut mieux qu'on reste tranquille. Mais la Bible nous dit que le pilote écouta la majorité plutôt que l'apôtre Paul, t'es le pasteur. T'es. J'aimerais vous dire ce matin que parfois la majorité n'a pas toujours raison. La preuve, c'est que Jésus, une personne, mais en lui nous sommes tous sauvés. Les gens ne sont pas tous, on n'est pas tous pour Jésus. Alors j'ose dire en tout cas, nous ce matin, on l'est pour Jésus. Mais la majorité n'a pas toujours raison. Mais j'oserais dire ce matin qu'avec Dieu, tu as la majorité. Avec Dieu, nous avons la majorité. Alors le centenier écouta plutôt le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de port. Comme le port n'était pas bon pour hiverner, tu comprends, on pouvait pas faire la fête, quoi. T'es pas bon port, t'es au mieux aller ailleurs. Oui. La plupart furent d'avis, voilà, la majorité, de quitter le port pour tâcher d'atteindre Phénix. Alors, ils ont décidé de partir. Alors que Paul avait dit, attention les amis. Un léger vent du sud vint à souffler. Se croyant maître de leur destin, ils levèrent l'ancre et ils côtoyèrent l'île de près de l'île de Crète. Mais bientôt, un vent impétueux qu'on appelle Euraquilon se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent. Et nous nous laissâmes aller à la dérive. Oups. Je disais encore à quelqu'un, je crois que c'est vendredi, un pasteur, je dis, tu sais, un problème comme ça, on peut le régler. Mais quand on ne le règle pas et que le problème devient comme ça, ça devient plus compliqué à le régler. C'est comme une gangrène. Et je réalise que, vous savez, la Bible nous le montre, hein, lorsqu'on met le doigt quelque part, vous ne savez pas jusqu'où cela peut vous emmener. Eutychus a été entraîné. Mais moi, j'ose dire ce matin, je dis gloire à Dieu pour l'Église, qui, elle, était entraînée, il s'entraînait dans la prière, dans la parole, dans l'enseignement, dans la communion fraternelle. Et moi, je dis, nous avons raison ce matin de nous entraîner pour nous entraider afin d'aller plus loin dans la parole, dans l'esprit, dans la vision de Dieu, dans la bataille spirituelle. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, autour de nous, il y a des Eutychus, oui, des personnes, peut-être que même que vous connaissez, qui sont entraînées, peuvent plus lutter, sont dans une dépendance. Mais pourquoi l'Église est là aujourd'hui ? Pour qu'à un moment donné, ce soit stoppé, ce soit arrêté, et que ces gens-là ne soient plus entraînés vers ce qui l'amène vers la mort, mais que ce soit coupé, et qu'ils soient eux aussi entraînés dans la vie, entraînés dans la puissance de Dieu, entraînés dans le salut, entraînés dans l'amour de Christ. Non, pas entraîné par le péché, mais je veux être entraîné par l'Esprit, par la parole, par la prière, par la communion. Vous voyez qu'à travers les deux, comme quoi les deux vivent les mêmes choses, mais d'une manière différente. Pourquoi j'ai choisi cette photo? C'est tout simple. Comment éviter, lorsque je suis sur le plan personnel, comment éviter de tomber dans le tourbillon? Parce que vous voyez qu'il y a plusieurs bateaux, puis il y a des bateaux, là, ils sont prêts de tomber, puis il y a des bateaux qui sont un peu plus loin, on dirait qu'eux, ils sont corrects. Ben oui. J'aimerais vous dire ce matin, tenez-vous le plus loin possible de ce qui pourrait vous faire tomber. C'est tout simple. Regarde, si tu n'as pas le droit de manger de gâteau, va pas à Tim Horton et regarde pas les beignes. C'est tout bête, mais c'est ça. Et c'est biblique. J'aimerais vous donner un autre exemple de la Bible. Tout au début, dans le livre de la Genèse, le livre de commencement, la Bible nous dit que Ève a mangé du mauvais fruit. Pourtant, Dieu a dit, attention, vous ne mangerez pas de celui-là. Alors j'oserais dire à maman Ève ce matin, qu'est-ce que tu fais à côté de l'arbre? Si Dieu te dit de pas toucher à ça, va le plus loin possible. Oui ou non? C'est tout bête, mais c'est biblique. Éloignons-nous le plus possible de ce qui pourrait nous faire tomber. Éloignons-nous le plus possible de ce qui pourrait nous faire mourir. Eutychus était à part, était sur le bord. J'aimerais vous dire ce matin, tenons-nous le plus possible au milieu de la parole, de la prière. Tenons-nous le plus possible ensemble dans la prière. Plus nous serons entraînés à être ensemble, à vouloir suivre Dieu dans la parole, l'esprit, la communion fraternelle, moins on aura de chance d'être entraînés à faire des niaiseries. C'est tout bête. Une autre histoire. La Bible nous dit que le temps où les rois se mettaient en campagne, David est resté à la maison. Alors il a envoyé son armée. Mais le problème, c'est qu'il devait y aller aussi. Puis à un moment donné, le bonhomme, il est monté sur le... Qu'est-ce que tu fais à 3h du matin sur ta terrasse à te balader? Ben, il n'était pas fatigué. Il n'aurait pas dû être là, il aurait dû être sur le champ de bataille. Mais il était là. Puis voilà que sur la terrasse, il voit une femme qui se baigne, nue. Alors j'oserais dire aussi à la femme, pourquoi tu fermes pas la porte de ta salle de bain non plus, toi? Ben oui. Mais il y a tout un processus. Et on se rend compte, en lisant le texte et en l'étudiant, que David est monté, puis il le savait, puis il est remonté. Si tu veux pas pécher, tiens-toi loin de ce qui pourrait te faire pécher. Vous et moi, nous sommes des hommes imparfaits. Oui ou non? Et il y a des choses toutes simples à travers la Bible. C'est sûr que si je dois pas manger de gâteau, je vais pas rester 5 minutes devant les beignes, devant Tim Horton, Seigneur, fais que je prenne pas de gâteau. Garde, éloigne-toi des beignes, puis tu auras moins envie d'en acheter. C'est nul ce que je vous dis ce matin, mais c'est ça. Éloigne-toi le plus possible. Et plus tu seras en communion avec Jésus, plus tu seras en communion à travers la parole. J'aimerais vous dire ce matin que la prière est le gouvernail de votre journée. C'est comme un bateau. C'est le gouvernail de ta journée. La parole de Dieu, c'est le gouvernail de ta journée. Si chaque matin, à travers ton temps, attention, je te dis pas maintenant, tu vas te lever à 3h du matin, tu vas passer 3h à genoux. Non, c'est pas ce que je vous dis. Mais il y a un temps, on en est là, il y a un temps. Prends le temps de prier, d'être en communion avec ton Jésus. Prends le temps d'ouvrir l'évangile. C'est la bonne nouvelle, t'as pas envie de commencer la journée avec une bonne nouvelle? Bah, ouvre l'évangile, tu vas commencer par une bonne nouvelle. Et puis juste avant de te coucher, tu lis l'évangile, comme ça tu refinis encore par une bonne nouvelle. Voilà, c'est fait. Je vous la fais en québécois, c'est fait. Mais tiens-toi loin le plus... Quelques textes. David, l'homme de Dieu disait, « Je retiens mon pied loin, loin de tout mauvais chemin, afin de garder ta parole. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin !» des excès, de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité. Alors peut-être que vous dites, non, mais moi c'est pas mon problème ce matin, je suis pas dans la luxure, je suis pas dans l'impudicité, je suis pas dans l'ivrognerie. Non, mais attendez, excusez, c'est pas fini. Tiens-toi loin des querelles. Tiens-toi loin des jalousies. Ah, c'est sûr que ces choses-là, ça se voit pas. Oui, mais ça tue un homme, ça tue une femme. Tiens-toi loin. Et comment tu peux te tenir loin? En étant ancré dans la parole. Et puis la communion fraternelle. Mon frère et ma sœur n'est pas là pour me juger ce matin. Oh, t'as fait ça? Tu vas le dire au pasteur. Voyons donc, oui. Non, on est là pour s'aider. On est là pour s'entraider. On est là pour s'entraîner dans la prière, dans l'amour de Dieu. Et dire, on va prier au nom de Jésus et tu vas t'en sortir. On va prier et tu vas être débarrassé. On va prier et tu vas avoir autorité sur le tourbillon. Alléluia. Et je dis ça, c'est un bon entraînement. Tiens-toi loin, le plus loin possible des tourbillons. Tiens-toi loin le plus loin possible de ce qui peut te faire tomber. Fais attention de ne pas te mettre à part des autres. Parce que Eutychus, il était à part. Comme ces bateaux, qu'est-ce qu'il vient faire là? Tu vois un tourbillon de loin, mais vas-y, fais quelque chose, regarde les autres. Attention de se mettre à part. Tu peux cliquer? Un homme seul est facilement maîtrisé par un adversaire, mais à deux, ils pourront tenir tête à celui-ci. Et une corde à triple brin n'est pas vite rompue. Ça, c'est le bon entraînement. Attention de se mettre à part. Mais l'important, c'est d'être à part ensemble. Comme ils l'étaient à travers cette réunion-là, ils s'étaient mis à part, mais mis à part ensemble, ensemble pour résister, ensemble pour prier, ensemble pour mieux connaître Jésus. J'aime ce texte aussi de la parole de Dieu, où il nous est dit, il est où celui-là? Ah, moi que je l'ai mis là, non? Alors c'est dans l'autre. Où il nous est dit qu'à un moment donné, Jésus montait à Jérusalem, et alors qu'il était sur le chemin, il prit ses disciples avec lui, il est bien dit les douze, il prit ses disciples avec lui pour être avec eux à part, à l'écart. Et je dis gloire à Dieu parce que c'est ce temps-là qu'on a ce matin. À travers le chemin de la vie, à travers nos occupations, le travail, nos loisirs, la famille, on est à part. Jésus nous a pris à part. Il nous a mis à l'écart pour nous entraîner dans la louange avec Pasteur Luc et les musiciens. Il nous a mis à part avec le Pasteur Éric Lefebvre. Bon, j'avoue qu'il nous prend un petit peu la tête ce matin, mais bon. Non, non, je ne vous prends pas la tête, je vous prêche la parole de Dieu. Entraîner, entraîner. J'aime tellement ça, non seulement se pas se mettre à l'écart, mais se rapprocher les uns des autres pour se mettre à l'écart ensemble. Tu peux cliquer? Ouh, ça fait mal ça. Il y en a qui font du vélo ici. Il y en a même qui font du bicycle à gaz. Puis qui tombent. Pas vrai mon Paul? Ça arrive de tomber. Je vous le dis parce que ça m'est arrivé aussi. J'ai fait plusieurs culbutes en vélo. Le temps de la chute, oups, ah, c'est ce qui s'est passé pour Eutychus. Il était là, il n'a plus vraiment pas d'intérêt avec la parole, pourtant il était là. Et puis il a été entraîné, il est tombé dans le sommeil, et il y a tout un engrenage. Et puis maintenant il y a le temps de la chute. Je n'ai pas le temps de parler de ça ce matin, mais la Bible nous dit qu'il est tombé du troisième étage. Il y a tout un enseignement à faire là-dessus parce que les trois étages, ça nous parle du corps, de l'âme et de l'esprit. Et tout est lié, entraîné l'un à travers l'autre. Et il y a tout un enseignement là-dessus sur les trois étages, âme, esprit et corps. Mais en tous les cas, il est tombé. Mais j'aimerais vous dire, tu peux cliquer encore, il y a encore un petit quelque chose là-dedans. C'est que la Bible nous dit à travers le texte, on l'a lu, c'est que nous étions réunis, éclairés, il est dit, nous étions réunis à l'étage supérieur de la maison. Ça, c'est l'église. C'est pas un lieu comme les autres, l'église. C'est l'endroit supérieur. T'as pas envie de dire ça, Luc, que l'église, c'est l'endroit supérieur? Parce que Jésus y est. et parce que la communion de la foi fait la différence. J'aimerais vous dire ce matin, vous n'êtes pas dans un trou ici. Vous êtes dans la présence de Dieu. Et la présence de Dieu, elle nous élève. On n'est pas là pour se faire abaisser. Jésus est là pour nous élever, alléluia, et nous élever plus loin, plus haut. Ils étaient dans une chambre haute, dans un lieu d'une supérieure. La Bible nous dit que non seulement ils étaient à l'étage supérieur, mais pourquoi elle était supérieure? Parce qu'elle était éclairée par de nombreuses lampes. C'est ça qui nous élève, la lumière. C'est ça qui nous permet de ne pas tomber, la lumière. Ta parole est la lumière. Qu'est-ce que disait David, psaume 119? Ta parole est une lampe, une... Alors j'ose dire ce matin, se tenir loin de la lumière peut entraîner la chute. Il vaut mieux être la lumière. Parce que Jésus ne nous demande même pas simplement de nous tenir près de la lumière, mais il dit « Vous êtes la lumière du monde. » Vous êtes la lumière du monde. Et l'important pour nous, c'est même pas d'être une lampe, mais surtout d'être une lampe qui brille. Ça sert à quoi d'avoir une lampe si on ne l'allume pas? Et Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Et c'est pour ça qu'il dit, mais ne restez pas cachés, vous êtes la lumière du monde. Et pourquoi? Il y a tout un processus, il tombe, il fait une chute. Oui, mais il est à part, il est à côté de la lumière. Alors que nous sommes appelés à être la lumière. Et ça nous montre encore ce matin que venir à l'église, c'est pas simplement venir à l'église, mais chacun de vous, vous êtes une lumière qui devait briller dans les ténèbres de ce monde. Lorsqu'on a posé la question à Jean-Baptiste, mais t'es qui toi? Il dit, moi, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Il criait quoi? La venue de Jésus. Il annonçait Jésus. C'est ça la lumière. Parce que Jésus, c'est la lumière du monde. Et pourquoi nous serions la lumière? Parce que nous sommes branchés avec la lumière. La véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Et Jésus le dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, donc dans la mort, mais il aura la lumière de la vie. Dis ça à quelqu'un à côté de toi. Bonjour lumière. Dis ça à quelqu'un ce matin, es-tu bien allumé? Je dis ça parce que le texte nous montre dans Matthieu 25. C'est quoi Matthieu 25? C'est cinq vierges sages, et puis il y en a qui avaient, vous comprenez? Cinq folles. Attention, je ne vous traite pas de fous et de folles ce matin, attention. Mais cela nous montre vraiment l'importance que Dieu veut pas qu'on soit simplement que des lampes. Dieu veut qu'on brille. Dieu veut qu'on brille. Et quoi de plus normal à travers ça que tu peux cliquer encore? Je réalise ce matin que oui, nous devons les uns les autres pas simplement être près de la lumière, mais en étant connectés avec la lumière. La parole de Dieu, c'est la lumière, c'est la vérité. En étant connectés à travers la parole m'éclaire. Elle éclaire ma vie, elle me montre les endroits où je peux mettre les pieds, où je ne peux pas mettre mes pieds, elle me montre les directions, la parole. J'aime tellement ces deux traductions, ta parole est comme une lampe pour mes pas, elle est une lumière éclairant mon chemin. Et je dis gloire à Dieu que cette lumière-là, elle éclaire mes pas, elle me montre où je mets mes pieds, mais en même temps, elle me montre où mettre mes pieds. Je dis ce matin gloire à Dieu parce qu'il y avait beaucoup de lumière. Pourquoi tu te mets à côté de la lumière? Et ce matin, c'est exactement la même chose pour nous. On pourrait être là, mais mettre la Bible de côté. Et mettre la Bible de côté, c'est mettre la lumière de côté. Et j'ai besoin d'avoir le lieu, j'ai besoin d'avoir cette communion. Et ce qui allume la communion, c'est la parole de Dieu, c'est Jésus. Il y avait beaucoup de lampes. Oui, pourquoi? Parce qu'on se rend compte à travers les textes que certainement l'endroit où ils étaient, c'était une grande pièce et il y avait pas mal de monde. Alors j'ose dire ce matin, waouh, gloire à Dieu, parce qu'il y a beaucoup de lampes ici. Non, non, regardez pas le plafond, c'est vous. C'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Si ce matin vous êtes en Jésus, vous êtes la lumière du monde. Si vous êtes connecté à la parole de Dieu, vous êtes la lumière du monde. Et j'ai une bonne nouvelle, tu peux cliquer. À celui qui vous garde, qui peut vous garder de toute chute et vous faire paraître en sa présence glorieuse, sans reproche et exultant de joie, Dieu peut te garder. Dieu peut te garder. Non, ça ne vous fait pas plaisir, ça. Non. J'aimerais vous dire ce matin, si c'était moi, si le pouvoir de garder était en moi, vous auriez du souci à vous faire. Parce que je suis qu'un homme, avec mes faiblesses, mes manquements. Je peux même parler pour mon frère Luc parce qu'il pense la même chose. Mais Jésus peut vous garder de toute chute. Jésus peut... Dis ça, proclame-le sur quelqu'un ce matin. Jésus peut te garder. Alors dis-lui en même temps, garde la lumière. Garde la lumière. Allez. Tu peux cliquer? Alors merci Seigneur, parce qu'il y a le temps de la grâce. Vous aimez ça, le temps de la grâce? Ouais. Alors là encore, il y a les deux côtés. Et je dis gloire à Dieu pour Eutychus, parce qu'il a, dans sa folie, dans ce qu'il est tombé, dans sa chute, il fut relevé mort. Mais alléluia pour lui, il y a le temps de la grâce. Alors je dis oui, il y a le temps de la grâce sur le plan personnel, mais il y a le temps de la grâce sur le plan de la communion, de la communauté ce matin, j'oserais dire, à travers l'Église. Et vous savez pourquoi Eutychus a été relevé de la mort? Vous dire oui, pasteur, parce qu'il y a la grâce. Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la Bible nous dit que tout le monde n'a pas dit « Oh, Eutychus, il est tombé. Seigneur, bénis-le, s'il te plaît. » Non, non, ils sont descendus, là. Imaginons que ce soit vous, là, qui vous êtes dans la pièce, là. Moi, je peux vous dire que je ne sais pas à quelle vitesse je descendrai les escaliers. Pas vous? Alors, ce matin, on dit, oui, pasteur, c'est normal. Eutychus, ouais, gloire à Dieu, parce que c'est le temps de la grâce. Oui, mais alléluia, pour la communauté de la grâce qui est descendue, qui n'a pas dit, ah oh ben, que Dieu le bénisse. Ils ont descendu, Paul l'a pris dans ses bras, l'a certainement prié, ils ont certainement prié, et il a été relevé de la mort. Et comme quoi on doit vivre le temps de la grâce personnellement, mais on doit vivre le temps de la grâce ensemble. Et vivre le temps de la grâce ensemble, c'est se pencher. C'est se pencher sur ceux qui peut-être sont tombés. C'est se pencher sur ceux qui peut-être qui spirituellement, ils sont morts. C'est se pencher sur ceux peut-être qui aujourd'hui encore sont en marge de l'Église, en marge de Jésus, sont à côté. Ils sont peut-être liés, emprisonnés. Alors oui, merci Seigneur, parce que la Bible nous le dit, Éphésiens 2. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Merci Seigneur, parce que la Bible continue. Nous étions morts. Dis ça à quelqu'un, tu étais mort. Sans Jésus, tu étais mort. Mais pasteur, j'ai une religion. Non, non, c'est mort. C'est pas d'adhérer à ta religion qui te fait vivre. C'est Jésus de Nazareth qui est mort à la croix, qui a été crucifié pour toi, que tu as accepté comme ton sauveur personnel. C'est ça qui te rend la vie. Nous étions morts, mais la Bible nous dit qu'il nous a ramenés à la vie avec Jésus. C'est bien précisé, avec Jésus. Donc sur le plan personnel, oui, je vis la grâce, j'étais mort. Tu peux cliquer, mais en même temps, à travers la communauté, je vis l'action de la grâce. Vive la grâce de Dieu pour ma vie, mais être aussi un instrument de grâce pour les autres. Tu peux cliquer encore ? Paul pouvait dire cela à Philémon. Lisez l'épître de Paul à Philémon, c'est extraordinaire. Vous allez voir là toute la dimension de la grâce. Je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus, ça c'est bien, mais ça ne s'arrête pas là. Mais parce que tu as la foi au Seigneur Jésus, alors ça t'amène à des choses. Et il dit, et de ton amour, qui quoi ? Qui participe d'une manière efficace à la foi pour tous les saints. Waouh ! Ça, c'est la communauté de la grâce. C'est pas un homme qui vit la grâce simplement sur le plan personnel, mais justement parce qu'il a compris la grâce. Il réalise que parce qu'il est sauvé par grâce, maintenant il est un instrument de grâce entre les mains du Père. Et l'Église, c'est ça. Parce que je suis sauvé par grâce, je deviens un instrument de la grâce. Elle est extraordinaire, cette parole. Il dit « Je suis informé ». Est-ce que les gens sont informés? Quel est le témoignage? Qu'est-ce qu'ils racontent de toi? Qu'est-ce qu'ils disent de l'Église? C'est ça l'important. Je suis informé qu'à l'Église Sainte-Terre, c'est pas simplement des gens qui parlent, c'est pas simplement des gens qui vivent, comme je l'ai dit ici peut-être, c'est pas des gens qui vivent simplement l'Église bocale. C'est des gens qui vivent l'Église locale. Qui sont pas enfermés sur eux-mêmes. Mais au contraire, ils ont compris que la grâce, on est ouvert. Non pas ouvert à faire des niaiseries, mais ouvert à apporter des bonnes choses. Ce que le monde ne peut pas apporter. Je suis informé de la foi que tu as, et cette foi-là te met dans l'action, cette foi-là t'amène à être rempli de l'amour, et cet amour-là t'amène à être efficace. Dis ça encore à quelqu'un, t'as pas envie d'être efficace? Pasteur Luc, t'as pas envie d'être efficace? Église Sainte-Terre, vous avez pas envie d'être de plus en plus efficace? Waouh! Alors oui, il a vécu ça, le temps de la grâce sur le plan personnel, mais il a aussi vécu le temps de la grâce à travers la communauté qui s'est occupée de lui. Et la Bible nous dit que Paul est descendu, mais là, il y a prophétiquement, c'est comme Jésus, il est descendu et il s'est penché sur nous, Jésus. C'est pour ça que tu es là ce matin. Comme Paul s'est penché sur lui, il l'a pris dans ses bras, c'est ça la grâce. C'est que Jésus a fait la même chose pour nous. Il est descendu, il est venu sur la terre et à travers la croix, il nous a pris dans ses bras pour nous aimer, nous pardonner, même si nous avions fait des niaiseries. Oui ou non? Ouais. Ouais. Et l'esprit de la grâce, c'est ça. Il a vécu la grâce sur le plan personnel parce qu'il l'a vécu à travers la communauté. Et j'ose dire, moi, ce matin, à travers Paul, à travers tous ceux qui sont descendus, ils ont dû descendre 4 à 4 les escaliers, qu'est-ce qu'il faut faire quelque chose. Je dis, oui, c'est ça, l'Église. On est entraillé parce qu'on vit la foi, on vit la grâce, on vit l'amour de Dieu. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est pas simplement une bonne poignée de main, que Dieu te bénisse. Mais on va t'aimer. On va t'entourer. On va t'encourager, on va prendre soin de toi, on va te bénir. Alléluia. Tu peux cliquer, je termine avec ça. Après la résurrection, le temps de la restauration, parce que la grâce se prolonge. On parlait tout à l'heure de le discours de Paul qui se prolongeait, mais la grâce de Dieu, elle se prolonge. La Bible nous dit, dans le texte, elle nous dit, et là j'ai étudié le texte, et on voit que ce n'est pas le même mot à travers le dimanche, nous étions là pour rompre le pain. Littéralement, le but de la réunion, c'était la Sainte-Cène. Et ils avaient choisi le dimanche. Ah, merci Seigneur, on est dans la parole. Non, ce n'est pas ça. C'est que le dimanche, c'était le jour de la résurrection. Et ça pourrait être n'importe quel jour de la semaine. Non, c'était le dimanche parce que c'était le jour de la résurrection. Alors je dis gloire à Dieu parce que pour nous, en plus, ça tombe le dimanche, c'est fantastique. Mais le but, c'était de rompre le pain, la commémoration, ce que Jésus a fait. Mais la Bible nous dit qu'ensuite, il remonta et il rompit le pain. Mais là, ce n'est pas le même mot. Et littéralement, il remonte, Eutychus est ramené à la vie, il monte en haut, alléluia, et maintenant, ils font la fête. Non. Mais quelque part, il se restaure et il continue. La réunion, là, punaise, c'est qu'on... jusqu'au petit matin... Je suis sûr qu'il y en a qui prient, « Seigneur, fais que la réunion ne se continue pas jusqu'à demain matin. » Non, ce n'est pas vrai. Vous savez ce que vous allez dire? Lui, là, le pasteur Lefebvre, il a un problème, là, il pense bizarre. Parce que la Bible nous dit qu'il prolongea son discours. Ok, le gars, il s'endort, il tombe. « Ouais, c'est de sa faute, il n'y avait qu'à prêcher moins longtemps, il ne serait pas tombé. » Alors moi, en tordu, j'ai réfléchi. Je me suis dit, mince, l'apôtre Paul, il comprend rien. Il comprend rien. Il prolonge son discours, le gars, il tombe, il meurt. Bon, merci Seigneur, il ressuscite. Mais plutôt que de dire, bon les amis, on va rentrer à la maison, lui, il continue. T'as rien compris, quoi? Je pense bizarre, hein? Non, non, vous savez pourquoi? Parce que lorsqu'on vit de tels miracles, on n'a plus envie de se quitter. Quand t'as envie de telle chose, là, t'as plus envie de rentrer, là. T'as envie de reprendre ta guitare, Luc, t'as envie de chanter, t'as envie de louer, t'as envie de prendre ton frère, ta soeur par le cou, par le bras, t'as envie de sauter, t'as envie de glorifier Dieu, t'as envie de faire la fête, quoi. Et là, ça nous remet en question à travers ce qui doit se passer dans nos églises. Qu'est-ce qui fait que peut-être je rentre et j'ai une qu'une hâte, c'est de partir? Ou qu'est-ce qui va faire que je vais rentrer mais je vais plus avoir envie de partir? C'est parce qu'on sent la grâce de Dieu, on sent la présence de Dieu, et puis je suis pas à part, je suis avec. Je vais participer. C'est plus la même chose. C'est plus la même affaire. La réunion ne prend une autre tournure, une autre dimension. C'est plus la même réunion. Parce que je participe. Imaginez la joie qui a dû se passer là. Le bonhomme, il est mort. Il se penche sur lui. Certainement, là, tous, il prie pour lui. Le gars, il ressuscite. Mais ça devait être la fête. Je pense pas qu'ils avaient de champagne, mais peut-être qu'ils ont une bouteille de champagne, je sais pas. Oh, extraordinaire. Alors, je dis oui, ce matin, après la résurrection, le temps de la restauration continue. Parce que la grâce, oui, tu peux y aller. Je désire vous voir. Pourquoi? Pour vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis, ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble. C'est ça le but. C'est ça le but. Afin que nous soyons encouragés ensemble, au milieu de vous par la foi qui nous est commune, à vous et à moi. Voilà pourquoi on est là ce matin. Parce qu'on a la même foi dans le même Seigneur, dans le même Sauveur, dans la même parole de Dieu, dans le même enseignement. Et Paul dit, voilà pourquoi je désire vous voir. Et on peut se poser la question ce matin. Qu'est-ce qui nous fait être là? Qu'est-ce qui nous fait revenir? Qu'est-ce qui fait peut-être nous faire revenir et nous faire revenir et être dans l'action? Je désire vous voir. Pourquoi? Pour vous communiquer quelque chose. Et ça prend, c'est ça la communauté de la grâce. Je suis pas là tout le temps pour recevoir. Je suis là pour donner. Dis ça à quelqu'un, ta présence me bénit. J'ose dire ce matin à ceux qui vivent ici, parce qu'on est là, on est ici, qui vivent des temps compliqués, difficiles, qui peut-être ce matin vous êtes bien, mais peut-être tout à l'heure vous allez rentrer à la maison et vous portez des fardeaux lourds, très lourds. Vous qui malgré ça êtes ici, votre présence nous encourage. Est-ce qu'on ne peut pas dire ça tout haut? Votre présence nous encourage. Ouais. Ouais. Et je crois qu'il faut avoir cette vision-là. Je désire vous voir. Bien sûr, le but, c'était rompre le pain. Bien sûr, le but, c'était Jésus. Mais à travers ça, c'est Jésus, mais en même temps, communiquer quelque chose. Ce que Jésus m'a donné, je veux le communiquer. Tu oins d'huile ma tête pour que ma coupe déborde. Que ça déborde. Et je vous dis que nos réunions vont prendre de plus en plus d'intensité, de puissance et d'onction. Parce qu'on va venir avec cette vision, avec cette dimension. Je viens pour louer Jésus, pour m'occuper de mon Dieu, pour être avec mon frère, ma sœur, pour louer le Seigneur. Mais en même temps, je veux apporter quelque chose à mon frère. En tant que pasteur, je dis merci Seigneur de ce que vous m'apportez quelque chose par votre présence. Parce que pasteur Luc pourrait le dire, c'est quand même mieux de prêcher à des gens qu'à des chaises vides. Ben oui. Eh oui. Vous savez, il y a des choses toutes simples qu'on ne pense pas, mais... Vous savez, lorsqu'il y a quelque temps, j'ai fait 1600 km aller pour faire une réunion où il y avait 3 personnes, 1600 kilomètres au mois de novembre. Et je ne savais pas comment retenir mes larmes pendant la réunion. Parce que les gens étaient tellement bénis que je sois venu de faire 1600 kilomètres pour les bénir. Mais en vérité, ils ne se rendaient pas compte que c'était moi qui étais béni par leur présence. C'était moi. Et à travers toutes ces petites églises que j'ai faites, j'ai réalisé le poids d'une âme. Parce que la Bible le dit, il y a plus de joie dans le ciel pour une âme qui se repent que pour 99 qui n'en veulent pas. L'importance de ta présence. Quel que soit ce que tu vis, oui, justement, c'est compliqué dans ta vie. Peut-être que tu aurais 1000 raisons pour ne pas être là, mais tu es là ce matin. Et ça nous encourage. Ça nous bénit ce matin. Je désire vous voir pour vous communiquer quelque chose, quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis et que vous soyez encouragés et qu'on soit ensemble encouragés au milieu de vous par la foi. Et Paul dit, regardez, je désire être là pour vous communiquer quelque chose, mais ensuite il ajoute, il dit non, finalement, c'est pas que moi qui est là pour vous communiquer, finalement, on se communique quelque chose. C'est pas n'importe qui, hein, l'apôtre Paul. Et là, on est en train de dire, finalement, je suis là, j'ai tellement envie de, je désire être là pour vous communiquer, mais finalement, à travers la foi qui nous est commune, on se communique les uns les autres. Ça, c'est le temps de la restauration. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais il prolongea son discours jusqu'à minuit. C'était dimanche. Vous savez ce que c'est, minuit ? Littéralement, lorsque vous regardez le mot minuit dans la Bible, ça nous parle de ténèbres, ça nous parle de chaos, ça nous parle de temps trouble. Mais en même temps, minuit, c'est le temps du changement. On passe d'une journée à une autre. Et Dieu sait ça. La communauté de la grâce, c'est que même s'il y a des temps de ténèbres, de chaos, de troubles, c'est le temps du changement. Et une communauté qui vit sous la grâce, elle vit le temps du changement. Et là où c'est le chaos, Dieu met sa grâce, il met son onction, il met sa puissance, alléluia. Et là où c'est les ténèbres, il met la lumière à travers la communauté qui vit dans la grâce. Ils ont commencé le dimanche, ils ont fini le lundi matin. Oui ou non ? Alors je le dis pour moi, vous inquiétez pas, n'ayez pas peur, revenez dimanche prochain, en plus c'est pas moi qui prêche. Mais j'ai vécu ça. Je repensais à des choses que j'ai vécues en France à travers des camps de jeunes. J'ai vu avec des jeunes, des camps de jeunes, 200, 300 jeunes, commencer des réunions à 9h le soir. Parce que nous, on mange pas à 5h, mais on mange vers 7h, 7h30. Et les réunions étaient entre 9h, à peu près vers 9h. J'ai commencé des réunions à 9h. Et j'ai vécu des réunions où on a fini le lendemain matin. Parce qu'on ne pouvait pas arrêter la réunion. Je ne pouvais pas l'arrêter. Il n'y avait rien à faire, j'arrivais pas. Je ne pouvais pas, tellement il y avait une onction, il se passait des choses. Des jeunes bénis, des jeunes guéris, des jeunes transformés, des jeunes qui ont été à ces camps et qui aujourd'hui sont pasteurs, d'autres sont missionnaires. On avait commencé la veille, on avait fini le lendemain. Est-ce que, oui, c'est ça l'onction. Non, c'est pas ce que je veux vous dire. Mais d'entrer dans le surnaturel divin et dans tout ce que Dieu a prévu et que nous, on n'a pas prévu. C'est ça l'important. C'est pas que, il faut, oui, voilà, il faut qu'on vive ça. Pasteur, on est décidé, on ne repartira pas de l'église avant demain matin. C'est pas ça. N'ayez pas peur, vous allez partir manger tout à l'heure. Tout va bien. C'est pas ça, vous comprenez, c'est pas ça. L'important, c'est d'être dans le timing de Dieu. C'est pas qu'il faut prolonger. C'est juste être dans le timing de Dieu. Et de vivre la communauté plus que jamais de la grâce. Et qu'on vive comme ils ont vécu là. T'sais, ils sont remontés, puis c'est reparti, puis tu m'étonnes. T'sais. Imaginez que ça se passe là, Sainte-Terre. Imaginez que quelqu'un meurt, hop, il ressuscite. Vous allez faire quoi? On va serrer la main. Bah, semaine prochaine, hein, que Dieu te bénisse. Non, on va faire la fête. Pas vrai, Luc? On va faire la fête. Comme celui qui est le boiteux à la belle porte. Mais la Bible nous dit qu'après, il suivait Paul, il suivait Pierre, il suivait Jean. On le retrouva au milieu du temple. Vous savez ce qu'il faisait? Il sautait, il louait Dieu dans le temple. Tu m'étonnes, ça fait 40 ans que le bonhomme, il bouge pas. Hé! 40 ans. Qu'est-ce que vous croyez que vous allez dire à l'homme? Reste tranquille, assis-toi, écoute le pasteur prêcher, reste tranquille. Et voyons donc, oui. Ça fait 40 ans qu'il ne marche pas, le bonhomme. D'un seul coup, il marche, il n'a jamais connu ça de sa vie. Vous ne pouvez pas lui dire, assis-toi, reste tranquille. Vous savez ce que vous avez envie de faire? C'est de sauter avec lui, de louer Dieu avec lui, de chanter, glorifier Dieu. Quelle folie, assis-toi, le bonhomme, ça fait 40 ans qu'il est assis. Puis là, il se convertit, puis on lui dit, non, assis-toi, reste tranquille. Non, mais soyons logiques avec nous-mêmes. Ça, c'est les temps de Dieu. Il y avait le temps de la guérison, puis il y avait le temps de la louange, de l'adoration, de la fête. Ah oui, parce qu'il venait de se passer quelque chose. Là où c'est dangereux, c'est de fabriquer l'ambiance. Ça, c'est dangereux. Parce que là, on n'est plus dans l'atmosphère spirituelle, on est dans une ambiance. Et je crois que justement, je crois que vous allez vivre des choses extraordinaires, parce que c'est une église qui reste basée sur la parole de Dieu. Et l'église de Philadelphia, Dieu ouvrait des portes parce qu'elle restait fidèle à la parole de Dieu. Et vous allez vivre des choses de plus en plus. Et il n'y a pas besoin de fabriquer, parce que c'est Dieu qui fait. Et lorsque Dieu fait, il n'y a pas besoin de fabriquer, parce que c'est tout seul, c'est naturel. Ça saute, pourquoi ça saute? Parce qu'il vient de se passer quelque chose. Aujourd'hui, ça saute, pourquoi tu sautes? Ah, je ne sais pas. Ah, d'accord. Non, non. Il sautait parce qu'il venait de se passer quelque chose. Et oui, on ne va pas dire au bonhomme, 40 ans, qu'il est couché, qu'il est assis à la belle porte, et il vient juste de se lever. Non, non, assis-toi. Voyons donc. Je suis sûr que déjà, lui, il n'accepterait pas. Il dirait, non, moi, c'est moi, là. Mais, assis-toi. Mais voyons donc, 40 ans que je... Mais, c'est le temps de marcher, là. C'est le temps de sauter, là. Vous comprenez? Parce qu'il était dans le timing de Dieu. Et moi, j'aspire à ça avec vous, être dans le timing de Dieu. Et que s'il faut être assis, il faut être assis. Et puis si Dieu a dit, il faut être debout, ben on sera debout. Et puis si Dieu dit, c'est le moment de sauter, eh ben on sautera, parce qu'il le voudra. Et parce que ça viendra de quelque chose. Et non pas parce qu'il faut sauter, parce qu'il faut sauter. Non, non, c'est pas une mode de sauter. C'est parce qu'il s'est passé quelque chose. Et moi je dis dans ce texte, extraordinaire, extraordinaire. Ils sont remontés, Paul n'a pas dit, oh ben regardez là, il est un petit peu tard. On va rentrer les amis, tu parles, ils avaient envie de faire la fête. Combien croient avec moi que ce fameux Eutychus, tiens, son nom déjà veut dire heureux, je ne sais pas s'il était vraiment heureux. Comment pouvons-nous être heureux en étant au bord? Combien croient avec moi qu'il n'a pas dû se rasseoir au même endroit? Je sais que vous, ce que vous pensez, dites-lui, il est vraiment bizarre. Non mais sérieusement, il n'a pas dû se rasseoir là, au même endroit hein? Ah ouais. Mais ça nous montre la puissance. Comment on peut vivre les mêmes temps les uns les autres en étant tout seul, mais lié à la communauté, on vit totalement différemment les choses. Alors dis ça à ton frère, à ta sœur, et la bonne résistance. Sois entraîné par les bonnes choses. Colle-toi à la lumière. Afin de ne pas chuter. Vis le temps de la grâce. Et vivons le temps de la grâce. Et puis comme ce texte, vivons le temps de la restauration ensemble. Amen. On peut se lever? On prie le Seigneur? Merci.